Bonsoir, bienvenue dans cette émission. Toutes nos excuses pour les retards considérables avec lesquels nous venons de commencer. C'était lié à nos lignes téléphoniques qui ont posé problème. 11e anniversaire samedi 24 février 2024 de la signature de l'accord pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs, dit accord au cadre d'Addis Abeba. Il s'agit d'une initiative de paix signée le 24 février 2013 visant à mettre fin à l'un des conflits les plus meurtriers et à résoudre les causes profondes de la violence et des guerres à répétition dans l'est de la RDC. En RDC, il a été mis en place un mécanisme de suivi en vue de la supervision de cet accord d'Addis Abeba. Cependant, au regard de la guerre qui sévit toujours dans la partie orientale de la RDC, une large majorité des Congolais s'interrogent sur la mise en application de cet accord et la mise en œuvre des engagements pris par les parties signataires. 11 ans après sa signature, que retenir de son impact dans la résolution des conflits dans la partie est de la RDC? C'est l'objet de cette émission et nous recevons à cet effet ici au studio Patient Bachombe, il est Matabishi, il est coordonnateur national de la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement d'ICOP RDC en sigle, une plateforme citoyenne qui se spécialise sur les questions de paix, sécurité et cohésion sociale. Il est aussi coordonnateur honoraire du cadre des concertations nationales de la société civile de la RDC. Bonsoir Monsieur Patient Bachombe Matabishi.
Bonsoir Guimaté.
En ligne, c'est Monsieur Maître Lando Mafuta, il est directeur de cabinet au sein du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Bonsoir Maître Lando Mafuta.
Bonsoir Monsieur les journalistes, je salue mes co-débatteurs et je salue également vos auditeurs.
Et lui également en ligne, c'est Augustin Mouessi, le professeur de sciences politiques à l'université de Goma, Unigom, et chercheur à Research Connect DRC. Un centre spécialisé dans la collecte, analyse et plaidoyer pour la valorisation des résultats des recherches. Bonsoir, professeur Augustin Mouessi.
Bonsoir, Guy Maté. Bonsoir à tous les auditeurs.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Nous l'avons dit, 11e anniversaire samedi 24 février 2024 de la signature de l'accord pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs. À cet effet, la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement d'ICOP en sigle a organisé jeudi dernier à Kinshasa une matinée de réflexion sur les thèmes, les défis et perspectives de l'accord cadre d'Addis Abeba. Quelles solutions courageuses et durables pour les retours de la paix? Les coordonnateurs de la DICOD RDC, Maître Patient Bachombe Matabishi qui est avec nous ici dans ce studio, ainsi que d'autres intervenants ont préconisé la révisitation de cet accord qui, selon eux, n'a pas apporté des solutions à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Les contredit avec Jean-Désiré Kanyama.
Un accord qui, selon les coordonnateurs de la DICOD, a été mis en épreuve avec une escalade des violences. Maître Patient Bachombe Matabishi.
La résurgence du M23 vient porter un coup dur à cet accord. On n'a pas honoré les engagements. Mais aussi, il y a eu des agendas cachés. On a piégé la République démocratique du Congo.
Ce qui nécessite sa révisitation pour l'efficacité de sa mise en œuvre, préconise Julien Paloukou, un des témoins de sa signature.
Et donc je milite en faveur de la révisitation de cet accord pour qu'on élague certains éléments qui relèvent de la politique nationale, mais qu'on y intègre seulement des éléments qui relèvent de la politique régionale et des obligations des uns et des autres, assortis des sanctions pour tout ce qui violerait l'accord.
La RDC a rempli une partie de ses engagements, notamment avec la création de plusieurs structures, parmi lesquelles les PDDRCS. Son coordonnateur est Monsieur l'abbé Jean Bosco Bahala.
Et donc il faut identifier quel est le vrai problème. Nous devons identifier qui est notre vrai ennemi. Il faut une autre perspective. La solution, c'est la montée en puissance de l'armée. Il faut produire aussi un document de politique de sécurité pour le pays. La perspective que nous avons aujourd'hui, c'est de pouvoir convaincre les commanditaires de la guerre d'arrêter le soutien à ceux qui nous agressent.
Les représentants du mécanisme national de suivi, de la CRGL et du ministère du Plan ont planché chacun sur la revitalisation de cet accord.
Merci beaucoup à vous, Jean-Désiré Kanyama. Maître Lando Mafuta, je rappelle que vous êtes directeur des cabinets au sein du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. On se rappelle que l'accord cadre a été signé au lendemain, n'est-ce pas, de la défaite du M23, c'était en 2013. Aujourd'hui, les mêmes M23, 11 ans après, les mêmes M23 revient en force. Et qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait par la RDC ainsi que d'autres partis signataires pour que 11 ans après, les mêmes M23 reviennent, alors que l'objectif, n'est-ce pas, de ces accords était d'endiguer toutes les menaces telles que celles du M23. Mais ce mouvement est revenu aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'a pas été fait et qui peut expliquer que les mouvements tels que les M23 continuent à causer de l'insécurité dans la partie est de la RDC?
Je vous remercie, monsieur le journaliste. Je pense qu'à mon avis, le M23 n'est pas revenu puisque l'accord n'aurait pas été appliqué. Non, je crois que les causes qui sous-tendent les retours du M23 sont à retrouver ailleurs et sont à retrouver dans les engagements dits régionaux qui n'ont pas été respectés. Je rappelle que dans ces engagements régionaux, il y a pratiquement cet engagement qui impose aux États de ne pas héberger les groupes armés, de ne pas déstabiliser le pays voisin, de ne pas de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale, de renforcer la coopération, j'en passe le meilleur. Mais le retour du M23, qui se trouve être non seulement appuyé par le gouvernement rwandais, mais aussi et surtout, le M23 s'est fait accompagner du RDF qui font le théâtre des opérations en République démocratique du Congo. Au fait, cet engagement régional qui n'a pas été respecté par le pays pourtant signataire de l'accord cadre Addis Abeba. Donc, à mon avis, ce n'est pas la RDC. La RDC, c'est un pays qui est allé dans l'accord cadre avec toute sa foi et toute sa sincérité. Vous allez remarquer que dans l'accord cadre, la RDC a même accepté de pouvoir proposer les engagements dits nationaux dans l'accord cadre. C'était pour la sincérité, la bonne foi, du respect de ces engagements. Et aujourd'hui, la RDC a travaillé pour le respect de ses engagements, a respecté ses engagements et ne peut pas être, n'est-ce pas, réproché pour un État ou une partie qui n'a pas respecté ses engagements.
Maître Lando Mafuta, justement, il y a des engagements pour, n'est-ce pas, chaque partie signataire. Et en ce qui concerne le gouvernement congolais, et il est dit un engagement renouvelé à continuer et approfondir la réforme du secteur de la sécurité, en particulier en ce qui concerne l'armée et la police. Hein. Et on se rappelle que ces processus de réforme, n'est-ce pas, du secteur de sécurité, c'est un processus vieux qui a commencé il y a plusieurs années et qui n'a jamais abouti. Est-ce que ce n'est pas le fait qu'on n'a pas pu, n'est-ce pas, réformer notre secteur de sécurité qui peut aussi expliquer le regain des tensions dans la partie est du pays? Parce que avec ça, la RDC n'a pas pu mettre en place un mécanisme ou un système de sécurité et global pouvant sécuriser les pays et sa population. Et tout cela passe, n'est-ce pas, par la réforme du secteur de sécurité.
Oui, monsieur le journaliste, je dois vous dire que les réformes des services de sécurité, ce sont des réformes qui sont en réalité faites de manière continue pour chaque État, y compris la République démocratique du Congo. Beaucoup d'efforts ont été faits dans le domaine de réformes des services de sécurité, la police nationale et voire les autres services, mais ce sont des efforts qui continuent avec les temps et ce sont des efforts qui vont être finalisés par le but de pouvoir nous ramener à une montée en puissance de notre armée.
Donc, des efforts qui n'ont pas, n'est-ce pas, abouti aux résultats escomptés.
Non, il ne faut pas dire que les efforts n'ont pas abouti à des résultats escomptés. Vous n'avez pas de calendrier qui donne les timings du temps des réformes et le temps de la finalisation de ces temps des réformes. Mais je vous ai dit qu'à l'état où se trouvait notre armée ou à l'état où se trouvait notre appareil sécuritaire, il faudrait bien faire des réformes réfléchies et qui ont quand même pris des temps, mais je vous assure que ces réformes-là sont en train d'être abouties pour que finalement ça ramène notre armée en puissance.
Voilà, il y a l'autre engagement, n'est-ce pas, toujours par rapport à la RDC, et consolider l'autorité de l'État, en particulier à l'est de la RDC, y compris en empêchant les groupes armés de déstabiliser les pays voisins. Et cette question, n'est-ce pas, des consolidations de l'autorité de l'État pose aussi problème. C'est un chantier qui n'a jamais été, n'est-ce pas, achevé. Et vous ne pensez pas que si on avait réussi à achever ce chantier, et ça nous aurait permis, nous, la RDC, de pouvoir, n'est-ce pas, décourager l'activisme des groupes armés comme les Red Tabara, qui aussi déstabilisent, à certains points de vue, les pays voisins.
Oui, ici, il faut prendre le premier engagement en transversal avec le second engagement. D'où, on ne peut pas rétablir l'autorité de l'État là où il n'existe pas d'autorité de l'État. Donc on peut rétablir l'autorité de l'État là où l'armée impose la discipline pour que finalement l'autorité de l'État soit établie. Mais finalement, vous nous parlez des Red Tabara. Mais c'est dû aux malices utilisées par certains pays voisins qui parfois travaillent pour que finalement cet engagement ne soit pas atteint. Mais la République démocratique du Congo s'y est mise. Vous avez remarqué avec moi que le président de la République avait nommé les autorités, les administrateurs du territoire pour les 145 territoires. Vous avez aussi remarqué que le gouvernement a établi un projet sur les 145, un projet de développement sur les 145 territoires. Donc le but du gouvernement, c'est de revenir à l'autorité de l'État dans l'étendue des 145 territoires qui composent la République démocratique du Congo. Et pour cela, il y a des avancées qui sont en train... Bon, en fait, il y a des avancées qui ont été faites, mais il y a encore, il faut reconnaître qu'il y a encore beaucoup qui n'ont pas été faites parce que Bité a des difficultés qui sont dues, n'est-ce pas, pas à la volonté de la République démocratique du Congo, mais à la volonté de certains pays dont on croirait que la bonne foi ou la sincérité existerait pour, n'est-ce pas, respecter le terme de l'accord cadre.
Oui, Maître Kalando Mafuta, le mécanisme national de suivi a été créé en RDC et la question que beaucoup se posent, hein, c'est celle de savoir à quoi ce mécanisme a servi pendant ces 11 années.
Oui, le mécanisme national de suivi a produit beaucoup de résultats qui ont ramené les réformes. Hein, qui ont ramené beaucoup de réformes, hein, l'application de l'accord cadre, qui ont poussé à réaliser certaines réformes dont le pays avait besoin, qui prenait besoin de citer parce que la liste est exhaustive. Le mécanisme national de suivi a travaillé à ces réformes-là, derrière le gouvernement congolais, pour la réalisation de ces engagements. Mais le mécanisme national de suivi travaille également au niveau de la région, avec les constats amers liés par la résurgence du M23 qui revient pour déstabiliser l'est de la République démocratique du Congo. Et pour cela, les mécanismes nationaux a travaillé. Le travail a consisté à ce que le mécanisme national de suivi a requéri le point de vue des uns des autres, des différentes couches de la population pour amener son cahier des charges dans la conférence tenue à Durban. Je vais dire que la conférence de Durban, c'est une recommandation du 11e ROM des chefs d'État tenue à Bujumbura qui ont recommandé qu'il fallait revitaliser l'accord cadre. Et c'est sur base de ça que le mécanisme national est allé avec son cahier des charges représentatif de point de vue des couches de la société congolaise. Et sur base de ça, le mécanisme national a obtenu un certain nombre de progrès dont je me réserve de pouvoir vous les dire parce que c'est soumis à la discrétion des chefs d'État qui composent le mécanisme et qui composent les mécanismes régionaux.
Malheureusement, des progrès qui n'ont pas d'impact sur le terrain, n'est-ce pas?
Oui, bon, les progrès qui n'ont pas d'impact sur le terrain, certainement, on peut parler d'absence d'impact sur le terrain du fait des résurgences du M23. Mais il faut retenir que le M23 n'est pas la volonté de la RDC. Le M23 est né, le M23 est revenu et revient du fait de la volonté d'un État voyou.
Merci.
Donc, vous comprenez.
Merci.
Voilà, donc ce n'est pas la volonté de l'État congolais.
Merci. Merci, Patient Bachombe Matabishi, vous êtes ici dans notre studio, coordonnateur national de la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et développement d'ICOD RDC en sigle, une plateforme citoyenne qui se spécialise sur les questions de paix, sécurité et cohésion sociale. Et vous êtes aussi coordonnateur honoraire du cadre des concertations nationales de la société civile de la RDC. 11 ans après la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba, qu'est-ce que ce texte peut avoir eu aujourd'hui comme impact dans la résolution de la crise que nous vivons dans l'est de la RDC?
Merci beaucoup, Guimaté. Avant de répondre à votre question, je voudrais dire que depuis la catastrophe humaine qui s'est produite au Rwanda en 1994,
avec les génocides
rwandais, auquel d'ailleurs la République démocratique du Congo n'a pas participé. À partir de ce moment-là, notre pays a subi et continue à subir jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons jamais eu la paix. Et retenez, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, la RDC a compté plus de 22 accords. Je vais arriver à l'accord cadre d'Addis Abeba. Vous pouvez vous imaginer, c'est aujourd'hui, après avoir passé tous ces accords, même à Sun City, c'est aujourd'hui que le régime de Kigali se retrouvant, le président rwandais se retrouvant au Bénin, il déclare pour la première fois ses intentions, n'est-ce pas, expansionnistes. Et il dit clairement qu'il a des terres en RDC. C'est-à-dire, depuis tous ces temps, nous étions en train de discuter, d'échanger. Il y avait des accords, mais les sous-bassements de ces accords, qui n'étaient pas respectés non plus, il y avait quelque chose, il y avait la ruse, il y avait les agendas cachés. J'en viens pour preuve. À Sun City, vous allez vous rappeler, déjà d'ailleurs bien avant... FDL et puis RCD, on a obligé à Sun City tout le monde de se mettre autour d'une table et on a formé le 1+4. Vous vous rappelez? On a pris tous ces militaires, des combattants du RCD, du MLC, un peu partout. On les a brassés dans notre armée. D'autres sont restés et qui ont surgi en 2009. Et qui se sont appelés CNDP. Vous vous rappelez? Voilà, il y a un accord. On a fait la guerre. Il y a eu un accord qui est arrivé.
On ne va pas rappeler toute l'histoire.
Non, c'est pas pour rappeler l'histoire. Je vais me focaliser sur l'accord cadre. On y va jusqu'en 2013. On a l'accord cadre, n'est-ce pas? Et ici, on a des gens qui ont été défaits. N'est-ce pas? Ils ont été défaits et 11 ans après, ils reviennent encore. Ça va? Parce qu'il y a eu un accord, tout le monde s'est mis d'accord, on a signé les engagements et l'accord cadre est le seul accord de tous ces 22 accords de paix, le seul accord où vous trouvez 11 chefs d'État qui ont signé, n'est-ce pas, le retour de la paix et qui ont pris des engagements pour le retour de la paix en RDC avec des garants. Plus de 4 ou 5 garants. Aujourd'hui, on veut encore en ajouter.
Avec 3 organisations supranationales, l'Union africaine, les Nations unies et l'Union
européenne. Finalement, on vient de se rendre compte que le vrai problème, et quand on négocie, le vrai problème n'est pas mis sur la table.
C'est quoi le vrai problème?
En tout cas, selon ce qu'on vient de comprendre maintenant, là, le vrai problème, ce sont les velléités expansionnistes.
Mais ça, on les savait. Écoutez, déjà pendant la première guerre, la guerre de l'AFDL, l'ancien président rwandais avait parlé d'une conférence de Berlin bis.
Mais écoutez,
c'était justement par rapport à ça. Donc on le savait depuis toujours.
Alors, chose qui n'a jamais été mise dans aucun de ces accords. Mm-hmm. Voyez-vous.
Voilà.
Donc aujourd'hui, on est
pour
11 ans après.
L'impact de cet accord par rapport à la résolution de la situation de l'Est.
Ben écoutez, d'abord, l'accord nous a permis, vous vous rappelez, de mettre en place une brigade, n'est-ce pas, d'intervention rapide, qui a neutralisé des groupes armés, notamment le Rwanda, le M23 également. Ça va? Et grâce à cet accord, nous avons eu une opportunité, n'est-ce pas, la RDC, d'engager des partenariats avec toutes les parties signataires et de tenir la communauté internationale directement engagée à rester regardante sur la question de la RDC. Grâce à cet accord, il y a eu des réformes, évidemment, au pays. Je crois que Maître Lando, que je salue, a évoqué ces questions-là. Au niveau interne, on a évalué, parce qu'il y a eu des benchmarks ou des indicateurs qui ont été définis, et ça a permis d'évaluer engagement après engagement. Donc, il y a eu quand même un certain nombre de dynamiques qui se sont mises en place, n'est-ce pas, pour pouvoir arriver à une paix en RDC, mais également dans la région. On a mis en place également, au niveau régional, avec l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, au niveau régional, autour de la CIRGL et toutes les autres parties prenantes, pour pouvoir suivre de près et contacter les pays par rapport à leurs engagements. Je crois que il y a eu quand même quelques avancées. Mais aujourd'hui, on est revenu à la case de départ. C'est ce qui nous inquiète. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs que notre plateforme puisse organiser cette conférence pour réfléchir finalement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que il y a eu non-respect des engagements? C'est à quel niveau? Qu'est-ce qu'il faut faire de cet accord finalement? Est-ce que il faut un régime des sanctions pour des nations, des États comme le Rwanda et même l'Ouganda? On n'en parle pas souvent.
C'est quoi la conclusion de toutes ces réflexions?
De toutes ces réflexions, on a trouvé qu'il faut révisiter cet accord. Évidemment, à côté de ça, il y a d'autres qui pensent qu'il faut revitaliser. Je ne sais pas quel est le contenu de la revitalisation, mais nous avons estimé qu'il faut il faut arriver, n'est-ce pas, à revisiter.
Ah, s'il faut revisiter, vous faites une revisitation globale du texte, ou alors ça sera de manière sélective. Est-ce que vous touchez aux engagements de la RDC, ou vous les laissez tels qu'ils sont?
C'est-à-dire, engagements de la RDC doivent être maintenus, mais on doit élaguer de ces engagements, n'est-ce pas, des éléments qui touchent à la politique.
Quels sont ces éléments qui doivent être élagués?
Par exemple, quand on parle de la décentralisation, en quoi ça touche au niveau régional? Et quand on parle, par exemple, de la démocratisation de la RDC, donc voilà, ou d'autres éléments...
Des questions de politique intérieure.
Des questions de politique, par exemple, les finances publiques de la RDC, on parle de... Non, ça, ce sont des questions de politique interne. Il faut parler, il faut mettre dans l'accord et rester sur des engagements qui touchent à la politique, n'est-ce pas, régionale de la RDC. Et je crois que c'est... Et il faut aussi intégrer le régime de sanctions pour ceux qui violeraient leurs engagements. Par exemple, maintenant, quelles sont les sanctions qu'on doit infliger au Rwanda après qu'on ait, on s'est rendu compte, effectivement, qu'il a violé ses engagements? Voilà des vrais débats, des vraies questions qui doivent être introduites.
Voilà, il y a eu des engagements pour la région. Hein. On parle, n'est-ce pas, un engagement renouvelé à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins, ne pas tolérer ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés, respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États voisins. Et on constate, n'est-ce pas, que les États de la région ont failli. Et est-ce que ce n'est pas aussi par le fait que, par rapport à l'application de cet accord, on a beaucoup plus tablé sur la bonne foi des États et on n'a pas prévu un mécanisme de contrainte? Il n'y a pas eu, n'est-ce pas, des sanctions qui ont été prévues à l'endroit de tous les récalcitrants?
Vous avez amplement raison. Vous avez raison. C'est-à-dire que aujourd'hui, il est clairement établi. Il y a des rapports n'est-ce pas, des experts des Nations Unies qui ont clairement mentionné que le Rwanda fournit en armes et munitions et en troupes, n'est-ce pas, les rebelles. Mais rien n'a été prévu dans cet accord comme régime disciplinaire. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le Rwanda, il y a aussi l'Ouganda, parce que c'était des réfugiés au niveau de l'Ouganda, mais comment ils se retrouvent en RDC? Pour ceux qui connaissent la configuration de la région à Bunagana, ils ne pouvaient pas entrer sans passer par l'Ouganda, mais comment l'Ouganda aussi est entré? On en parle pas très souvent par rapport à la responsabilité, à la responsabilisation de l'Ouganda par rapport à ce qui se passe. Mais il faut poser des vraies questions, voyez-vous. Donc au niveau de la région, la RDC est allée même plus loin et pour entrer dans l'East African Community. Vous vous rappelez, aujourd'hui on a des pépins, on a des problèmes avec l'East African. Ils sont arrivés même à déployer leurs forces. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je vais revenir peut-être à la fin pour parler aussi de nos capacités de négociation. C'est très important.
Merci Augustin Mouessi, professeur de sciences politiques à l'Université de Goma, Inigoma, en sigle, chercheur à Recherche Connect DRC, un centre spécialisé dans la collecte, analyse et plaidoyer pour la valorisation des résultats des recherches. 11 ans après la signature de ces documents, au regard de la guerre qui se vit dans la partie est de la RDC, et peut-on dire que cet accord est-ce qu'on peut dire que c'est cet accord en soi qui est mauvais, ou c'est plutôt les esprits qui n'étaient pas disposés à l'appliquer? Professeur Augustin Mouessi.
Oui, en fait, de prime abord, il faut dire que l'accord cadre d'Addis Abeba comporte évidemment un certain nombre de... Mais les faiblesses qui sont évidemment claires, puisque cet accord a plus imposé à la RDC qu'aux autres États de la région, jusqu'à même entrer dans la politique interne de la RDC, parce qu'il était question finalement de demander à la RDC d'améliorer la qualité de sa gouvernance pour que justement... les conditions d'une paix durable soient vraiment rétablies. Mais de là, justement, de ces faiblesses-là, le fait qu'on ait beaucoup demandé à la RDC, il faut dire que c'était déjà un cadre, un référentiel important qui s'inscrivait dans une logique, une approche globale pour amener la paix au niveau de la sous-région. Et par rapport à votre question, on se rend compte, effectivement, qui se pose des problèmes de volonté politique, de bonne foi de tous les signataires, de tous les États de la région, qui ont signé en fait un accord qui n'a pas tenu compte, qui a occulté en fait les velléités des États en fonction de la réelle politique en fait, puisque même si les États se sont engagés à pouvoir travailler ensemble pour amener la paix, à respecter la souveraineté de la RDC, et on a oublié pratiquement que...
Allô, professeur Augustin Mouessi.
Pour certains d'entre eux, il faudrait toujours effectivement forcer la RDC à pouvoir créer des conditions pour tirer profit des ressources de la RDC. Et donc, c'est un accord, évidemment, cadre, qui a toute sa vigueur, qui avait toute sa importance dans le cadre de la recherche de la paix dans la sous-région, mais est-il que c'est un accord qui n'a pas tenu compte des vraies questions, des vrais intérêts des États, parce que même après avoir signé cet accord, on voit que ces États, au nom de la quête de leurs intérêts personnels, sont prêts, n'est-ce pas, à violer l'accord, puisqu'en fait l'accord n'a pas tablé sur tout ce qui peut être à la base de la conflictualité dans la sous-région, encore que les questions, parce qu'on parle de cet accord, de pouvoir solutionner les causes profondes des conflits, et c'est là où justement on a l'impression, en lisant cet accord, que les causes profondes des conflits, on ne les a pas suffisamment énumérées. On n'a pas tenu compte de certaines causes, et ça fait effectivement que et que compte tenu de cette lacune, mais aussi des velléités des États, l'accord n'est pas arrivé justement à produire des résultats escomptés, même si on ne peut pas dire qu'il n'a pas pu contribuer à quelque chose, puisque, comme les amis l'ont dit, les co-débatteurs l'ont dit, à un moment donné, cet accord qui est vraiment un référentiel important a permis à ce que les États de la région travaillent ensemble pour la paix, mais c'était sans tenir compte justement des différents appétits des États sur la RDC, mais aussi sans tenir compte justement de l'évolution de la situation en République démocratique du Congo, à laquelle on a un peu trop demandé dans cet accord, puisque même si les réformes ont été effectivement amorcées, mais il faut dire que depuis la signature de cet accord, les réformes restent toujours des chantiers. Et donc, c'est vrai, il y a eu des avancées, mais on peut dire que les IOV n'ont pas été suffisamment importants. Ça fait effectivement qu'on revienne à la case du départ avec justement des crises récurrentes à l'est de la RDC, puisque à part justement ces problèmes internes à la RDC, il y a la mauvaise foi des pays voisins.
Vous l'avez dit.
Et tout cela a dû contribuer à la pourriture de la situation à l'est de la République démocratique du Congo.
Oui, professeur Augustin Mouessi, et donc on peut dire que le gouvernement congolais a été quelque peu naïf dans ce sens que il connaissait très bien, on le savait, on connaissait très bien les intentions, les visées expansionnistes, les visées territoriales, n'est-ce pas, des voisins, mais on n'a pas mis l'accent, n'est-ce pas, sur cette dimension lorsqu'on élaborait cet accord. Donc on peut dire qu'on a été quelque peu naïf vis-à-vis de ces États.
Oui, je peux dire que le gouvernement congolais s'était contenté des promesses un peu fallacieuses, des promesses un peu d'une sorte de recherche d'une solution à court terme, sans pour autant justement s'imaginer que, sans pour autant tenir compte que derrière cet accord, il y avait effectivement des agendas cachés et qui aujourd'hui, lesquels aujourd'hui justement se révèlent au public puisque ces États voisins n'ont pas toujours été de bonne foi. Donc, comme tout accord, cet accord n'a pas été complet, ne prétendait pas résoudre tous les problèmes et justement la situation à laquelle on assiste, ça rattrape justement, ça montre que l'accord a eu déjà apporté les germes de sa faiblesse, de sa signature, surtout qu'on avait affaire à des acteurs qui étaient un peu hypocrites, qui n'ont pas bien dit pourquoi ils soutenaient les groupes armés à l'est de la RDC.
Merci.
Encore que la coopération entre les États qui étaient aussi prônés dans cet accord, cette coopération, cette intégration économique, cet appui à la CPGL, non, ces aspects-là n'ont pas été considérablement pris en compte.
Merci, professeur. Merci. Nous allons maintenant écouter ce que disent les auditeurs qui nous appellent pour donner leur point de vue par rapport au sujet d'aujourd'hui. Maître Kelando Mafuta, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa.
C'est Japhet Eonga depuis la ville de Kinshasa. Dans toute société humaine, les problèmes ou les conflits ne manquent jamais. L'idée de trouver la paix dans la partie est de la RDC par l'accord cadre d'Addis Abeba était une bonne chose. Malheureusement, cet accord est devenu obsolète car l'accord n'est pas appliqué selon l'esprit et la lettre de ce texte. D'où il faudrait revisiter cet accord, de voir là où les choses n'étaient pas bien marchées. Et cela doit se faire par la diplomatie du gouvernement congolais pour chercher à arriver au respect non seulement de l'accord d'Addis Abeba, mais aussi d'autres accords en faveur de la RDC.
Maître Lando Mafuta.
Merci, monsieur le journaliste. J'aimerais dire à monsieur Eyunga que finalement, l'application ou le respect de l'accord dépend de bonne foi des États qui les signent. C'est les principes juridiques qui dit que les accords sont appliqués de bonne foi. Mais ici, pour le cas de l'accord cadre, la mauvaise foi n'est pas venue de la RDC. La mauvaise foi est venue du Rwanda qui a accepté de pouvoir violer volontairement les engagements régionaux par lui souscrits. Et c'est cette mauvaise foi de ces pays qui violent ces engagements qui fait que l'accord ne soit pas appliqué à ce niveau. Quant à la RDC, beaucoup ont été faits. Vous allez vous rappeler, par exemple, pour le secteur de sécurité, combien de lois ont été votées. Je prends seulement ce seul exemple dans le secteur de sécurité. Combien de lois ont été votées pour la réforme du secteur de sécurité? Nous avons aujourd'hui la loi sur les programmations militaires, qui est une réforme phare pour les services de sécurité. Donc la RDC est toujours et restera toujours de bonne foi pour l'application de cet accord cadre. Mais par rapport à ce qui arrive aux États qui ne respectent pas leurs engagements, finalement, les réflexions ont été données pour les vocables « révisitation » ou « revitalisation » de l'accord cadre. Eh bien, la RDC a travaillé et la RDC sortira de là avec un certain nombre d'éléments qu'il aura voulu que ce soit appliqué ou que ce soit mis dans cet accord-là. Là, je peux vous rassurer que vraiment, au niveau du mécanisme national de suivi, nous en avons vraiment travaillé sérieusement et nous attendons la validation de ce que nous avons travaillé dans le cadre de la revitalisation, enfin de revenir devant la presse pour, n'est-ce pas, exposer tout ce qui a été obtenu comme, n'est-ce pas, éléments nécessaires pour revitaliser cet accord.
Oui, vous avez parlé, vous avez évoqué la mauvaise foi, n'est-ce pas, des pays voisins, et une mauvaise foi qui est même établie. Et même si, parce que vous le dites, hein, on arrivait à revitaliser ou revisiter cet accord, et qu'est-ce que ça changerait, n'est-ce pas, sur le terrain? Et lorsque on sait qu'en face de nous, nous avons des gens qui ne sont pas prêts, n'est-ce pas, à respecter cet accord, parce que étant animés de mauvaise foi, comme vous venez de le dire.
Oui, messieurs les journalistes, au fait, l'essentiel ou l'importance de l'accord cadre, c'est que l'accord cadre comprend plusieurs parties qui sont signataires dans l'accord cadre. Nous avons la communauté internationale et dans la partie qui concerne la communauté internationale, nous pensons que cette communauté internationale doit jouer son rôle, hein, son véritable rôle dans le cadre des instruments qui sont à sa disposition pour pousser ces pays qui agressent l'autre de pouvoir cesser avec ces attitudes. Et c'est comme ça que le mécanisme national de suivi suggère ou demande qui est, par exemple, le mécanisme de redevabilité. Vous comprenez? Donc, nous pensons que le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a déjà été saisi par le gouvernement congolais, devait aligner la question de l'agression de la RDC par le Rwanda pour la discussion, afin de prendre des mesures et arriver à des sanctions qui doivent être infligées aux autorités rwandaises qui organisent cette agression contre la République démocratique du Congo.
Merci, Monsieur Patien Bachombe. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kolwezi dans les Lualaba.
C'est Patrick Mbouli Kassama depuis Kolwezi dans la province du Lualaba. Nous avons dit que cet accord d'Addis Abeba était tout, sauf la solution à la crise très complexe qui secoue la région des Grands Lacs. Il ne fallait rien attendre de cet accord au regard de l'hypocrisie et manque de volonté de certains dirigeants de la région. Aujourd'hui, 11 ans après, le bilan de cet accord est un échec cuisant. Il est vrai que dans les relations entre États, ce sont les intérêts qui comptent. La RDC reste la principale victime de ces atrocités. Je rappelle que la solution à nos problèmes ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. Il faut travailler à l'interne. Les autorités congolaises savent pertinemment bien qu'aucun État, ni en Afrique, moins encore de l'Occident, peut nous présenter la solution à nos problèmes sur un plateau. La vraie guerre contre les groupes armés en RDC doit commencer à Kinshasa et au sein de nos services de sécurité. C'est ça l'unique solution à la problématique de l'insécurité dans la partie orientale de notre pays.
Patient Bachombé.
Non, je crois que M. Patrick a tout dit. Sa question comporte aussi une réponse. Il dit qu'il faut travailler plus à l'interne. Je crois que c'est vrai. Vous savez, on s'est posé beaucoup de questions. Pourquoi le Conseil de sécurité des Nations Unies n'affiche pas à l'égard de M23 la même intransigeance qu'il y avait il y a 11 ans? On s'est posé cette question. Parce que on était très catégorique, mais aujourd'hui, on ne sent pas des sanctions, on ne sent pas vraiment une sorte de pression sur eux. Il y en a pas. Et aussi, en ce qui concerne les sanctions, si elles ne viennent pas, si nous allons rester en train d'attendre les sanctions, je crois que la RDC aussi peut sanctionner le Rwanda d'une manière ou d'une autre. Il y a des sanctions que la RDC aujourd'hui doit juger d'imposer au pays agresseur. Et Patrick a raison. Il faut vraiment travailler sur notre armée. Il faut la rendre une armée professionnelle, une armée aguerrie, une armée dissuasive. Ça, c'est très important. Mais je voudrais aussi dire, parce que Maître Lando a dit, évidemment, qu'il y a la mauvaise foi des autres pays voisins, mais pas de tous les pays voisins. Je crois qu'aujourd'hui, on a vu un pays voisin, le Burundi, qui a appuyé la RDC, clairement. Le Burundi ou la Tanzanie. Et même... Donc je voudrais quand même apaiser les collègues pour dire que non, il y a le Burundi qui s'est qui a fait la différence. Alors est-ce que aujourd'hui on peut négocier avec quelqu'un qui veut obtenir, qui exige nos terres? Qu'est-ce qu'on va discuter et négocier avec lui? Est-ce que les vraies questions seront toujours mises sur la table des négociations? Parce que il y a maintenant, cette négociation à Luanda. Alors, est-ce que le président Paul Kagame, devant le président Félix Tshisekedi, il va dire, donnez-moi telle portion de votre terre, c'est ça la négociation. Qu'est-ce que le président Paul Kagame va exiger? Qu'est-ce que le président congolais va lui donner? Quel sera finalement le fond, le contenu des négociations? Tout le monde se pose ces questions. Est-ce que, et je pense que c'est là qu'intervient vraiment la sincérité, parce que si le président, notre président tombe, n'est-ce pas, dans ce piège, ça peut être l'hécatombe, ça peut être la balkanisation du pays. C'est pourquoi nous, en tant qu'acteurs sociaux, nous sommes en train d'attirer l'attention de l'autorité que pour négocier, il faut vraiment mettre en place un corps de négociateurs, un corps permanent de négociateurs pour, n'est-ce pas, pérenniser les engagements et voir comment les exécuter.
Merci, professeur Augustin Mouessi. Vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kisangani, dans la Tchopo.
Le général Patrice Osangola, depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo. À mon humble avis, l'accord cadre d'Addis Abeba n'a pas trouvé sa place d'être à République démocratique du Congo, justifiant le plus haut niveau de sécurité et des violences de tout genre. La RDC est un pays qui signe beaucoup d'accords dont nous sommes tous témoins, mais qui n'aboutissent à rien. Je m'interroge donc, pourquoi dans d'autres pays, les accords aboutissent calmement et tranquillement, et chez nous, en RDC, ça se fait. La RDC doit savoir faire le choix sur les accords à signer pour ne plus retomber à ces erreurs qui deviennent une pire distraction.
Vous allez nous excuser pour la qualité de ce son. Professeur Augustin Mouessi, vous avez compris? Allô?
Oui, en fait, je lui comprends que l'auditeur se méfie un peu de cet accord, mais aussi de tous les autres accords que la RDC a toujours signés, qui n'apportent pas de solution. Bon, je crois qu'il a le droit d'être un peu critique vis-à-vis des accords que la RDC signe, mais je voudrais dire simplement que les États vivent d'accord, les États doivent signer toujours des accords. Mais le problème, c'est de se dire qu'est-ce qu'il faut signer. Il faut se poser des questions avant de signer pour voir si on n'est pas en train de se mettre l'accord de cou. Mais aussi se poser la question, savoir si en signant, on va prendre des dispositions pour justement respecter les engagements pris. Mais aussi se poser la question, savoir si la personne avec qui on signe ou l'État avec qui on signe est sincère. Et je crois que toutes ces questions, à mon avis, sont très importantes. Et la RDC semble n'avoir pas bien posé ces questions. Mais c'était quand même important parce qu'on regarde le moment où on a signé l'accord et les résultats qu'il a permis d'atteindre. J'estime que c'était important néanmoins de signer l'accord, même si on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il résolve tous les problèmes. Et là, je voudrais aussi profiter de votre micro pour dire en fait que les États signeront toujours les accords, mais pour que les accords soient bénéfiques aux États, ça va demander aussi un travail en interne justement. Et donc, clairement, je voudrais dire que lorsque notre pays, la RDC, aura une armée vraiment dissuasive, une armée qui fera respecter la RDC, c'est vrai, il y a déjà des efforts qui sont en train d'être consentis et c'est positif. Mais si ces efforts-là, lorsque ces efforts-là vont être accrus, il est clair que la RDC pourra justement se faire respecter et se faire attendre. Et il va créer en fait à ce moment-là les conditions pour que les accords qu'il va signer avec les autres pays voisins, pour que ces accords-là effectivement soient respectés. Merci. Donc ça, c'est à mon avis un préalable très important. Et j'ai l'impression que de ce côté-là, il y a encore des petits soucis, enfin des soucis qui font que les États voisins s'amusent à signer des accords tout en sachant qu'ils ne vont pas respecter la souveraineté de la RDC et que les groupes armés vont toujours être instrumentalisés de part et d'autre pour déstabiliser la paix et la sécurité dans la sous-région.
Merci, nous allons conclure, nous sommes à la fin de l'émission. Maître Lando Mafuta, directeur de cabinet au sein du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, et vous avez suivi le professeur Augustin Mouessi qui estime qu'il faut qu'il y ait un travail à l'interne, et vous pensez qu'un accord comme celui d'Addis Abeba suffit à lui seul, n'est-ce pas, pour amener la paix quand il s'agit d'une question épineuse, n'est-ce pas, de l'insécurité qui touche l'Est de la RDC. Et lorsqu'il n'y a pas un travail, n'est-ce pas, derrière tout ça, un travail qui est fait, qui est accompli au niveau interne, vous pensez qu'un simple accord pourrait nous aider, n'est-ce pas, à rétablir la paix dans la partie Est du pays?
Non, messieurs les journalistes, moi je pense que un simple accord ne suffit pas pour rétablir la paix. D'ailleurs, nous voyons que l'application de cet accord pose problème à partir des moments où certains pays, notamment le Rwanda, qui acceptent volontiers de pouvoir violer, n'est-ce pas, les engagements pris dans le cadre de cet accord. Le travail au niveau interne a déjà commencé et c'est un travail qui continue et va ramener jusqu'à la montée en puissance de notre armée. Vous avez appris comme moi que la République démocratique du Congo, où le président de la République a ordonné qu'on puisse recruter jusqu'à 40 000 hommes pour notre armée. Et vous apprenez aussi avec moi que cette armée-là est en train d'être équipée et cette armée-là subit des formations spécialisées qu'on n'a pas connues depuis un certain temps. Donc c'est juste une question de temps pour voir la montée en puissance, pour imposer la dissuasion dans notre armée. Vous avez suivi que avec l'ancien ministre, l'ancien ministre de la Défense, devenu ministre de la Recherche scientifique, a proposé la politique de la défense en RDC. Dans cette politique, on a tablé sur la dissuasion qui nous manquait jusqu'à ce niveau. Et finalement, toutes les dispositions ont été prises pour que le gouvernement congolais puisse cette fois-là signer des accords avec une position de d'une armée qui a la dissuasion, une position dominante, et que ça ne soit plus une position où on devait courir derrière des États qui ne respectent rien de leurs propres engagements.
Merci. Merci.
Et qui pensent transmettre, qui pensent vraiment utiliser un État voisin comme le théâtre des opérations, avec n'est-ce pas des violations des droits humains très avérées.
Merci, Patient Bachombe. Matabishi, vous allez aussi conclure. Hein. Vous êtes coordonnateur national de la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement d'ICODE RDC en sigle, une plateforme citoyenne qui se spécialise sur les questions de paix, sécurité, cohésion sociale. Vous prenez, n'est-ce pas, la révisitation de cet accord. Et vous pensez que quand on va révisiter ou revitaliser, comme vous le dites, et cela peut faire bouger les lignes sur le terrain.
Effectivement, il faut que au niveau des terrains, les communautés qui sont touchées, qui sont affectées, sentent quand même qu'il y a qu'ils soufflent la paix. Et c'est très important, parce que ça ne sert à rien de conclure des accords alors qu'au niveau sur terrain, ce sont des vieilles femmes, des enfants qui courent tous les jours, parce que il faut aussi parler de ce problème humanitaire aujourd'hui. Il y a des millions de nos concitoyens qui sont en train d'errer ça et là. Donc il faut vraiment revitaliser, et je crois que on a compris que notre armée, et j'encourage les chefs de l'État à continuer à vraiment à taper les poings sur la table, à faire pression et à ne pas baisser les bras, surtout par rapport à notre armée. Il faut que l'armée soit forte, parce que nous sommes une bijouterie, c'est-à-dire nous sommes remplis de beaucoup de richesses, et tous les autres voisins nous regardent. Ils veulent entrer dans notre concession. Il nous faut une armée dissuasive pour que les gens ne viennent pas piller nos ressources naturelles. Il faut aussi, au niveau interne, il y a un travail à faire aussi. Il faut vraiment bâtir une vraie cohésion nationale. C'est très important, à partir du niveau communautaire jusqu'au niveau national, pour que les Congolais, n'est-ce pas, s'expriment, bien que nous sommes dans une démocratie, mais que les Congolais défendent dans l'unité notre pays. C'est très important.
Merci.
Donc, c'est pour cela que j'encourage le chef de l'État à bâtir des œuvres pour la cohésion nationale, et nous sommes prêts à l'accompagner pour ce faire.
Merci, Augustin Mouessi, professeur de sciences politiques à l'Université de Goma, Inegoma, sigle, et chercheur à Research Connect DRC, un centre spécialisé dans la collecte, analyse et plaidoyer pour la valorisation des résultats de recherche. Professeur, on a l'impression que c'est beaucoup plus la RDC qui parle de ces accords de cadre d'Addis Abeba, hein. Les autres apparemment n'en parlent plus. Et vous pensez que l'impulsion peut venir de qui, n'est-ce pas, pour pousser toutes les parties à pouvoir mettre un accent sur cet accord cadre d'Addis Abeba?
Oui, il y a la communauté internationale, la communauté sous-régionale également. Ce sont des acteurs majeurs qui peuvent jouer un rôle pour essayer de réveiller les esprits, pour essayer de rappeler aux États voisins leurs engagements. Mais laissez-moi vous dire que tant que justement la RDC ne va pas prendre au sérieux, n'est-ce pas, la question de la réforme de la sécurité, c'est déjà beau que cette question soit prise au sérieux et qu'il y ait des avancées significatives. Mais tant qu'il n'y aura pas encore plus d'efforts, et les attentes vis-à-vis de cet accord vont demeurer en tout cas mitigées, qu'on révisite, qu'on redynamise. Mais je crois que c'est la RDC qui a intérêt à ce que sa souveraineté soit respectée, et que les populations de l'Est du pays vivent la paix. Alors, il est tout à fait logique que ce soit la RDC qui fournisse un peu plus d'efforts, même si évidemment, il faut dire que cet accord reste un référentiel important sur lequel la RDC peut s'appuyer pour essayer de booster le volet diplomatique qui est aussi important. dans le cadre d'une approche régionale et de la paix. Et donc, c'est à ces conditions-là que, effectivement, cet accord peut encore servir à quelque chose, même s'il ne faut pas attendre de lui les miracles, étant donné que ce sont les intérêts des États qui priment au-delà des accords qui peuvent être signés dans une logique tout à fait paradoxale et climat d'hypocrisie de manière généralisée, en fait.
Merci, professeur Augustin Mouessi. Merci, monsieur Patien Bachombe, Matabishi et maître Lando Mafuta d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci également à Kali Koute qui l'a réalisé, à Mimi Kindou qui est à la technique avec la participation de Clément Chimanga, de Jonathan Fouanani et d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Sevoujangwe. À la présentation, Guy Maté. Merci une fois de plus et bonne soirée pour Gam sur Radio Capi.